Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté.
Quelques jours après la visite du nouveau président syrien Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche, où en est la Syrie débarrassée du clan Assad? De l'Empire ottoman à la présence de Daesh, en passant par la mainmise française ou les appétits russes, quelle est l'histoire de ce pays tant convoité et si vulnérable aux ingérences extérieures?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Rey, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Historique.
Épisode 3. 1970, Hafez el-Assad prend le pouvoir.
Bien que le général Assad, ministre de la Défense, se soit emparé du pouvoir vendredi soir, les jeux sont loin d'être faits en Syrie. Le journaliste Édouard Saab, dans le journal Le Monde, le 17 novembre 1970. Mathieu Rey, je vous ai vu sourire quand j'ai donné cette citation du grand journaliste libanais Édouard Saab. Pourquoi vous avez souri?
Parce que c'est une citation qui traduit très très précisément l'air du temps,
oui.
Où on se dit, tiens, c'est encore un coup d'État. Ça n'est a priori que le 40e réussi ou échoué depuis 1949.
Ah oui. Ah, parce que vous nous aviez parlé de 4ème République et d'instabilité, mais pas de coup d'État dans l'épisode précédent. Il n'y a pas eu de coup d'État sous la 4ème quand même.
Il paraît.
Oui, bon, il y a débat. Mais quand même, là, 40 coups d'État, c'est quoi? C'est des gens qui tentent l'aventure? C'est quoi, les militaires? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce pays?
Au lendemain de la défaite de 1948,
ouais.
De vastes manifestations s'emparent du pays.
Alors, la réponse. La défaite de 48, la défaite.
De la Syrie contre Israël.
Voilà.
À partir de décembre 48, ces manifestations conduisent le gouvernement syrien à confier au chef d'état-major le rétablissement de l'ordre. Puis, les parlementaires discutent de savoir quel a été le rôle exact de l'armée, pourquoi ils ont perdu la guerre. Ce chef d'état-major est mis en accusation. En mars 1949, il réalise le premier coup d'État. Pour l'année 49, on en a 3.
On ne va pas faire les 40, mais on sent qu'on est parti dans un cycle.
Exactement.
Ouais.
La différence, c'est qu'à partir de 1963, donc le coup d'État de 63 porte au pouvoir un nouveau parti, le parti Baas, qui, à la différence des précédents, lui détruit les institutions politiques. C'est-à-dire qu'il suspend au nom de la Révolution le fait qu'on puisse éventuellement le contester.
Je vous arrête à l'instant parce qu'on va beaucoup parler du parti Baas dans les épisodes qui arrivent, hein, parce que c'est lui qui va rester au pouvoir jusqu'à la Révolution récente, finalement, qui va chasser les Assad. D'abord, ça veut dire quoi Baas, B2AS? Et c'est quoi l'histoire de ce parti? Quand est-ce qu'il va naître? Et qu'on ait bien en tête les éléments avant de rentrer dans la politique.
Ce parti naît d'un club culturel qui se forme à partir de la fin des années 30, début des années 40, à Damas, autour de 3 personnalités, Salah al-Din Bitar, Michel Aflaq et Arzouki. Le troisième est important parce que c'est un réfugié du Sanjak d'Alexandrette qui délivre aux autres, qui sont jeunes professeurs et qui enseignent à Damas, le fait que la nation arabe peut être dépecée.
Vous nous avez raconté ça.
À l'époque, Michel Aflaq a des idées assez générales. Alors, il croit à l'arabité, par exemple, où il explique comment lui doit être d'abord favorable à une langue, mais aussi comment il fait place à des idées de liberté, de socialisme. Mais on n'a pas véritablement de programme. Mm-hmm. Le texte fondateur de ce parti qui advient plus tard, dans le sens de la Renaissance, Baas égale Renaissance, est en fait une collation de ses articles parus dans le journal. Ce qui bien qu'on voit des contradictions assez manifestes, notamment sur le terme d'inquilab, qui veut dire coup d'État, où au départ c'est plutôt la réforme morale, et à la fin c'est l'intervention des militaires par la force, pour justement permettre cette idée de révolution qui va permettre la renaissance de la nation.
Et donc c'est ce qui va se passer en 1963.
En 1963, une nouvelle génération d'officiers née dans les années 30, par exemple Hafez al-Assad, s'empare du pouvoir et considère que les urgences qui se posent au pays, qui sont de deux natures, on en a parlé rapidement dans l'épisode précédent, à savoir soit sociale, soit géopolitique, méritent pour cela qu'une avant-garde tienne le pouvoir, et cette avant-garde ne peut être que de l'armée, vu que la nation est en danger.
Mmh.
La grande mutation qu'ils opèrent, c'est qu'ils ferment le jeu politique, dissout toute opposition, les enferment, et entre dans un cycle où l'État va commencer à s'affronter à sa société ou à vouloir transformer sa société en profondeur par un contrat social qui amène des lois socialisantes avec plus de droits pour certains, mais toute opposition politique commence à être muselée.
Ça, c'est important parce que, évidemment, on va revenir sur le système sécuritaire, voire concentrationnaire, qui va se mettre en place progressivement. Mais d'un point de vue géopolitique, quelles sont les options que le parti basse choisit à ce moment-là sur la question de la guerre froide et sur la question de la guerre régionale ?
Sur la région, immédiatement, ils reprennent les discussions pour essayer de faire une union arabe. Donc, ils convoquent des délégués égyptiens, des délégués irakiens pour voir s'il est possible de faire quelque chose. Ça ne marche pas, toujours pour le même problème. Qui va diriger la nouvelle province ?
L'Égypte ou la Syrie ?
Et les Syriens conservent une mémoire traumatique de la présence égyptienne en Syrie entre 1958 et 1961, parce que la première chose qu'avait fait l'Égypte, c'était d'envoyer les officiers syriens dans les périphéries égyptiennes pour qu'ils n'aient plus de rôle, et avait dissous à peu près l'ensemble des forces politiques qui soutenaient le projet de l'Union. Et plus encore, on parlait à l'époque d'égyptianisation du pays, ce qui était mal vécu par une partie de la population locale.
Surtout pour une population locale qui vient d'accéder à son indépendance peu de temps avant quand même. Dans le temps historique, on est peu de temps, c'est 46, on est dans les années 58-59, c'est pas si longtemps que ça avant, et déjà, il y a le sentiment qu'à nouveau, une puissance extérieure vient prendre le contrôle.
C'est surtout qu'ils découvrent justement que c'est une puissance extérieure et non pas une fraternité arabe.
Oui,
Il n'y a pas la fusion parfaite telle qu'on aurait pu l'opérer, c'est-à-dire que finalement les élites se rencontrent et se retrouvent à l'identique, mais non, on a bien des différences.
Une déception.
Et donc dans les années 60, ces projets-là achoppent à chaque fois, parce qu'il faut savoir qui va diriger. Le dernier épisode dans ce registre sera une tentative en 1979 de faire la fusion, et un jeune Saddam Hussein fera un coup d'État pour le refuser avec l'Irak.
À la fois donc le désir d'union arabe, mais avec le souvenir des échecs précédents et de l'appétit de l'Égypte. Pour autant, opposition évidemment à Israël du parti basse clair. Et d'un point de vue géopolitique alors, au sens plus large, par rapport à l'URSS, quelle est la position du parti basse et d'Assad qui arrivera bientôt au pouvoir seul en 1970 ?
Pour eux, il faut un allié extérieur. Si Israël est allié avec les États-Unis, et dans les années 60, cela devient de plus en plus manifeste, surtout à partir de 1967, où les États-Unis font de cette question un potentiel deuxième Vietnam, il faut trouver le partenaire qui puisse corriger la donne. Donc ce sont les Soviétiques. En plus, on a une proximité. L'Union soviétique, c'est un pays qui s'est développé très rapidement. On va essayer d'emprunter, non pas à ce pays, mais aux démocraties populaires, ce qui permettrait de rénover l'appareil révolutionnaire. Et c'est comme ça qu'on a la rencontre entre la RDA et la Syrie. La RDA formant les appareils répressifs du jeune régime bassiste. On ira même jusqu'à adopter une partie de l'uniforme avec cette veste de cuir noir que l'on voit apparaître dans les rues de Damas.
Ça, on s'arrête là-dessus, parce que la stratégie d'Assad, c'est un pays ultra-centralisé, vous m'arrêtez si je me trompe, ultra-centralisé, basé sur l'armée, bien sûr, reposant sur l'armée, avec des services de sécurité ultra-puissants. Arrêtons-nous sur le système qu'on va bientôt qualifier de concentrationnaire dans le pays. Vous nous dites qu'il y a une influence très claire de la RDA.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre 1963 et 1970, Hafez al-Assad apprend à survivre.
Oui.
On a deux ou trois grands autres coups d'État qui auraient pu le démettre. Donc il a compris sa propre faiblesse.
D'où la phrase de Saab du début.
Exactement.
On n'est pas sûr que ça va tenir, quoi.
Immédiatement, il va opérer trois ou quatre grandes modifications. La première, c'est que le parti basse devient un parti qui va accueillir beaucoup plus de membres. Ça devient un parti massif. On multiplie par plus de 10 le nombre de membres. Il adopte en cela une technique stalinienne.
Oui.
Il fait de son parti le parti par lequel il va contrôler la société. Mais il ne veut pas avoir un concurrent potentiel. Donc on va mettre d'autres institutions en place. Pareil pour l'armée. On bascule d'une armée qui comptait quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers. Or, une armée qui est trop nombreuse ne peut pas faire de coup d'État parce qu'il faut avoir trop d'entente à l'intérieur de cette armée pour qu'on puisse en prendre le contrôle. Ce qui est le cas à 40 000, qui est plus possible à 200 000.
Ouais.
Et par ailleurs, ça répond au mot d'ordre de préparer la revanche. Donc, on peut le légitimer d'un point de vue idéologique. Et surtout, Assad se spécialise dans la formation de services de renseignement, ce qu'on appelle les mukhabarat, qui ne sont pas un, mais multiples, chacun se concurrençant l'un l'autre.
Toujours pareil.
Et qui lui permettent, en dernière instance, d'être celui qui maîtrise toute l'information et celui vers lequel vont tendre toutes ces baronnies qui se forment, où chacun va disposer progressivement au cours des années 70-80 de l'ordre de 20 à 25 millions en armes, contrôlant leur société.
Comment est-ce que vous qualifiez le régime que met en place Hafez al-Assad progressivement dans les années 1970 ?
C'est extrêmement compliqué parce qu'on n'est pas dans un système totalitaire oui. nazi ou stalinien parce qu'il n'en a pas la technologie, il n'en a pas les moyens.
C'est donc pas qu'il n'en a pas l'ambition ?
On ne sait pas s'il en a l'ambition. Oui. Tout du moins, ça ne lui sert à rien. Parce que tout simplement, et c'est ça le principe fondateur des Assad qui va conduire à leur chute, ils ne pratiquent qu'une politique de l'immédiat. Ce qui leur importe, c'est de demeurer jusqu'au lendemain. C'est là où ils vont donner tort justement à Saab. C'est que pour eux, ils savent très bien qu'il y a tout le temps une possibilité de renversement ou de problème. Et donc, il faut se méfier des deux ou des trois zones potentielles de contestation. D'abord, les services et l'armée. Mmh. Ensuite, de potentiels opposants politiques, mais ça c'est facile à les domestiquer ou les écraser. Et enfin et surtout, ils construisent un discours extrêmement violent contre leur propre société, qui est perçu très rapidement comme le criminel potentiel qui risquerait de les mettre en danger.
Mais comment on tient avec un discours pareil ?
On tient avec quatre ressorts. Le premier ressort, c'est ces appareils de renseignement qui font que les personnes ont tous les droits. Là, on pourrait rattacher à ce qu'on voit sur le nazisme ou autre, c'est-à-dire au nom du chef, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mmh. Torturer, faire disparaître, tuer, etc. Le deuxième pilier, qui s'accélère vers les années 70 et surtout dans les années 80, au moment de la grande opposition au Assad qui débute en 1976 et finit en 82, c'est le fait d'avoir le droit de faire disparaître les gens. Donc on a autour du système carcéral aussi un système économique, parce que vous voulez avoir de l'information sur votre proche, vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous allez rémunérer vous-même ses propres systèmes. Le troisième, c'est un système de prédation. Il n'y a plus de politique économique, vous prenez la richesse, alors soit en rentrant au capital de l'économie nationale, soit, surprise pour le régime des Assad, lorsque le Liban entre en guerre civile, ils peuvent se mettre auprès des différents bords du Liban et ainsi rançonner le pays pendant une bonne partie de son histoire très contemporaine. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de porter la guerre régionale chez les voisins. Donc, on accueille tous les opposants possibles, pourvu qu'ils soient susceptibles d'être une carte à jouer, de telle manière à neutraliser la Turquie à travers les Kurdes, neutraliser la Jordanie éventuellement, mais aussi les Saoudiens ou les Irakiens, selon les contextes.
Comment la France réagit face à cet autoritarisme quasiment dictature d'Hafez al-Assad dans les années 70-80. On est encore avec le père Assad jusqu'en 2000.
On réagit en plusieurs temps et selon des moments très très différents. En 1963, on rétablit les relations diplomatiques qui s'étaient rompues avec la guerre d'Algérie. Donc on a une certaine entente avec les nouveaux gouvernements qui sont à l'époque des gouvernements révolutionnaires, mais qui ne paraissent pas pour les Français de façon complètement originale, parce qu'on est dans des gouvernements du tiers-monde, militaires, mais il y en a tellement que, bon. Et l'idée, c'est de reprendre pied dans ce pays où on avait une influence. Mmh. Les choses changent à partir des années 80, parce que c'est un pays qui va quand même être responsable de la mort d'un de nos ambassadeurs au Liban. Et donc là, il y a une rupture.
Racontez-moi.
En 1983, des forces libanaises pro-syriennes assassinent l'ambassadeur de France au Liban dans le cadre de la guerre civile, participent aux différents attentats qui ensanglantent le territoire libanais, notamment sur le Drakkar et autres. Les Syriens font partie des mouvances qui ne sont pas favorables à la France au Liban. Et ça, on le comprend très bien. Mais par ailleurs, on entretient tout de même des relations avec la Syrie centre, qui nous permettent d'être en dialogue, on a nos institutions qui sont ouvertes, on ne ferme pas l'ambassade, etc., etc. Mais on conserve quand même l'idée que ce régime n'est pas forcément un régime tout à fait sain, ni un facteur de stabilité. En revanche, après la guerre du Golfe, les choses évoluent.
Dans quel sens ?
Dans le sens où Hafez al-Assad, à l'invitation des Américains, fait partie de la solution de paix au Moyen-Orient, et donc il faut le rétablir. Et on a une nouvelle décennie qui semble rapprocher les deux puissances jusqu'à l'avènement de Jacques Chirac qui veut parrainer le jeune président Bachar el-Assad avant de découvrir qu'en fait il est équivalent à son père.
Et bien précisément, Bachar el-Assad, il sera l'objet de notre prochain épisode, le quatrième. Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté, est un podcast original de France Inter.